C'est le grand chef d'orchestre de notre biologie interne, un ensemble de bactéries qui jouent un rôle fondamental dans l'immunité et qui communique avec le cerveau. Les spécialistes l'appellent le microbiote, mais on connaît mieux cet organe sous le nom de flore intestinale. Les scientifiques considèrent qu'un déséquilibre de notre microbiote est associé à de nombreuses pathologies. C'est le dossier de l'émission cet après-midi en partenariat avec Santé Magazine pour comprendre les découvertes qui se multiplient ces dernières années dans le monde entier autour de notre flore. Vos questions dès maintenant, vos messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Stéphanie Texier est aux commandes de notre Tête au Carré, préparée par François Mercier avec Estelle Honora.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les découvertes scientifiques donc autour de notre flore intestinale, dossier dans quelques instants. Et bonjour à mes invités Karine Clément, Hervé Blottière et Aline Perraudin. Bonjour à tous les trois, bienvenue.
Bonjour. Bonjour.
Karine Clément, le microbiote, son rôle dans les maladies très variées, c'est un champ de recherche de plus en plus important auquel vous participez. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce domaine.
C'est un champ de recherche qui s'est ouvert ces dernières années. C'est finalement, pour les personnes impliquées dans le domaine, un nouvel organe à découvrir.
C'est ça. Et vous travaillez en particulier sur l'obésité ?
Oui, l'obésité et ses complications, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires. Et l'obésité est une maladie avec de nombreuses complications dont certaines sont méconnues. Et donc il y a aujourd'hui des vraies questions autour du rôle de cet organe dans les interactions entre notre environnement et notre biologie, et en particulier dans le développement des maladies métaboliques, comme l'obésité ou le diabète.
Et Hervé Blottière, l'alimentation, on va le voir, joue un rôle majeur dans le fonctionnement de ce microbiote.
Ah oui, et c'est d'ailleurs la première fonction qu'on lui attribue, c'est celui de nous aider à digérer ce que notre organisme n'est pas capable de digérer, par exemple les fibres, et de nous apporter une partie de l'énergie nécessaire, en particulier pour notre intestin.
On va voir qu'il influence également notre humeur.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a beaucoup d'intérêt justement sur l'axe intestin-cerveau et sur non, pas seulement l'humeur, mais également certaines pathologies associées comme autisme et dépression.
Voilà, toutes ces pistes, vous les explorez, Aline Perraudin, dans ce numéro de Santé Magazine.
Mais c'est un sujet en fait qui passionne nos lectrices. À chaque fois qu'on fait la une sur l'intestin, on a toujours de très bonnes ventes. Comme il y a eu le succès du livre Le charme discret de l'intestin, et en fait cette relation entre le cerveau et l'intestin passionne, et ces découvertes sur la flore intestinale, c'est vraiment intrigant et passionnant.
Ouais, on va se retrouver tous ensemble dans quelques minutes avec les questions des auditeurs qui nous rejoignent. Et en raison d'un mouvement de grève, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer aujourd'hui la une de la science.
Thank you.
Vous écoutez France Inter.
My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church. I worship like a dog at the shrine of your light. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God. Let me give you my life. Take me to church. I
tous. Moi et mes amis travaillons fort à noyer la douleur et l'ennui. Nous forgeons ça de nos ivresses, une version améliorée de la tristesse. De la tristesse. De la tristesse. De la tristesse. Sur ma main, une tache d'encre, un alphabet de téléphone. Je laisse planer le mystère en espérant qu'il s'écrase loin de la terre. Moi et mes amis travaillons fort à noyer la douleur et l'ennui. Nous forgeons ça de nos ivresses, une version améliorée de la tristesse. Moi et mes amis travaillons fort. Douleur et l'ennui, nous forgeons ça de nos ivresses, une version améliorée de la tristesse.
En raison d'un appel à la grève émis par plusieurs organisations syndicales portant sur le retrait du projet de loi travail, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Ceux qui disent le temps c'est de l'argent sont dans l'erreur. Si on met les zéros de côté, pas les heures. Je commande un café avant le texte pondu. Demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu. Souvent en avance où le temps m'importe, mon pote. Si tu ne peux être à l'heure, faut que tu te téléportes. Quand on se rate, y'a pas de prochainement. La vie est courte et la mort a tout le temps. Né le matin, majeur à midi, vieux des 20h. L'histoire oublie les héros, pas les vainqueurs. 365 jours puis 700 le temps commence à manquer, tu l'espires. Celui qui écoute, peu importe ce qu'on dit, le temps révèle tout. Le temps fait du bien à l'amour, contrairement à ce qu'on pense. Les regrets, c'est quand on se bourre concrètement. Le mauvais temps n'est pas le froid ou le gris. C'est ce qu'on s'était juré, qu'à force on oublie quand j'arrive pas à écrire. Le mauvais temps, celui qui te ronge, la migraine quand tu t'interroges. Les rêves s'éloignent, tu cours à leur poursuite. En vieillissant.
Vous écoutez France Inter, il est 14h20.
La tête au carré, l'actualité des sciences. Sur France Inter.
Le microbiote intestinal, donc au cœur de notre dossier cet après-midi pour comprendre les découvertes qui se multiplient autour de la santé. Nous sommes en partenariat avec justement Santé Magazine qui s'intéresse au rôle de l'intestin dans son dernier numéro. Mes invités, donc Karine Clément, vous êtes médecin, directrice de l'ICAN. C'est l'Institut de cardiométabolisme qui est affilié à l'INSERM, l'Université Pierre et Marie Curie et l'Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Hervé Blottière, vous êtes biologiste cellulaire et directeur de recherche à l'Institut Michaelis et vous êtes directeur scientifique de Métagénopolis. Aline Perraudin, vous êtes la directrice de la rédaction du mensuel Santé Magazine. Voilà, les questions des auditeurs arrivent déjà nombreux sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Et donc Aline Perraudin, si tout venait de l'intestin, c'est le titre que vous mettez à la une, avec un dossier dans lequel vous explorez à la fois l'humeur, le poids et la santé en général, mais beaucoup autour de l'alimentation et du poids quand même, hein.
Oui, parce que c'est des recherches, Karine Clément est là, intéressantes sur l'obésité notamment. Et donc il y a des études autour de l'obésité et sur l'humeur. Donc on a pris deux angles importants qui intéressent notre public.
Karine Clément, Hervé Blottière, notre rapport justement à notre intestin semble avoir changé. On en parlait tout à l'heure, on voit le succès des ouvrages consacrés à cet organe. Le grand public donc s'y intéresse. On est très attentif maintenant aux découvertes. Donc c'est quoi? C'est toute la perception qui a changé autour de nos bactéries aussi, Karine Clément?
C'est la perception autour de notre bactérie. C'est la perception que nous ne sommes pas tout seuls.
Ah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire.
Et que même des collègues américains disent que nous pourrions être les marionnettes de ces bactéries.
Ah oui, en plus.
Et en tout cas, alors je ne sais pas si nous sommes des marionnettes de ces bactéries, mais en tout cas, il y a de l'interaction, c'est-à-dire des relations entre leur fonctionnement et notre biologie. Et l'humain. Et donc ça, ça existe pas seulement chez l'homme, hein, dans plein d'espèces vivantes. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi la symbiose. On est en relation avec, effectivement, ce monde bactérien.
C'est ça. Mais il faut le comprendre comme des êtres étrangers, au fond, à notre organisme, Hervé Blottière, venus d'ailleurs.
C'est une excellente question. En fait, on va dire qu'on est colonisé dès la naissance et ces micro-organismes vivent en nous jusqu'à notre mort. Donc, quelque part, est-ce qu'ils nous appartiennent? C'est une question.
Mais en tout cas, c'est une bonne coévolution.
Mais en tout cas, ils sont avec nous. Oui.
Bonne ou mauvaise, d'ailleurs. Tout dépend des cas. Mais en tout cas, c'est vrai que la perception aussi a changé. C'est-à-dire qu'avant, on avait quand même une image assez négative des bactéries. Aujourd'hui, on les perçoit autrement dans notre organisme.
Tout à fait. Et ça me rappelle une anecdote où, à une époque, au salon de l'agriculture, on avait un stand sur justement le microbiote intestinal et j'avais une vieille dame qui était venue et puis on lui expliquait qu'elle avait 100 000 milliards de bactéries dans son tube digestif et elle m'a dit « Ah non, moi je suis en bonne santé, je n'ai aucune bactérie dans mon tube digestif ». Vous voyez comme ça a pu changer.
C'est ça, Aline Perraudin.
Et c'est vrai qu'avant on parlait de soi ou de non-soi et que maintenant on a l'impression avec toutes ces bactéries qui sont en nous que c'est un écosystème et que c'est peut-être nous. Enfin, ça remet en cause l'humain. Je trouve que c'est vraiment, ça pourrait être une blessure narcissique. On a l'évolution.
C'est vrai.
Et maintenant, on a l'écosystème bactérien.
Et ça, c'est un vrai beau mot. Ouais. On est un écosystème et on a vraiment besoin de comprendre complètement cet écosystème et comment il fonctionne, tenant compte de nos propres cellules, mais aussi de notre microbiote.
Ouais. Ah, j'aime beaucoup la blessure narcissique des bactéries. Ça me plaît beaucoup. Karine Clément, ce projet Métacardis sur lequel vous travaillez en ce moment, vous nous en dites quelques mots?
Oui, il s'agit d'un projet européen qui réunit des équipes donc européennes, beaucoup d'équipes françaises avec notamment nos collègues à l'INRA, mais aussi des équipes en Allemagne, au Danemark et dans d'autres pays européens. Et l'idée en fait de ce projet, c'est d'étudier au cours des maladies du métabolisme, c'est-à-dire de voir la maladie comme une trajectoire.
Oui.
Le patient a une trajectoire, il est à risque ou pas d'avoir du diabète ou des maladies cardiovasculaires, et de regarder justement ces changements du microbiote intestinal à différents stades d'évolution de la pathologie. Et aussi de comprendre ces changements. Il s'agit pas non seulement il s'agit d'observer, mais de comprendre ces interactions. C'est d'ailleurs ce que fait Hervé dans ce projet, et qui est de regarder vraiment les interactions entre ce microbiote et notre biologie, en particulier l'intestin, mais pas que, les autres organes également.
Donc c'est voir le rôle du microbiote dans ces maladies, Hervé Blottière.
C'est dans des conditions saines, mais également, est-ce qu'il peut participer dans des pathologies, ou est-ce qu'il peut être déséquilibré dans les pathologies, et donc dans ces cas-là, est-ce qu'on peut impacter, pour le rééquilibrer.
Ce sont des milliers de personnes que vous allez suivre.
Alors oui, effectivement, aujourd'hui, le projet a commencé, nous sommes dans la troisième année, le projet a commencé donc par les premières inclusions de patients. Aujourd'hui, nous avons recruté 2000 personnes à différents stades de leur maladie cardio-métabolique, dont 1000 à la Pitié-Salpêtrière. Et donc, les travaux vraiment commencent, et en particulier par l'analyse du microbiote. Et en fait, ce qui a changé, finalement, c'est notre capacité aujourd'hui à analyser le microbiote intestinal. Aujourd'hui, avant, on ne pouvait pas, puisqu'on ne pouvait pas cultiver toutes ces bactéries. Ouais. Aujourd'hui, par des techniques de séquençage, on peut le faire.
C'est ça. Et il y a 15 ans, on n'arrivait pas du tout à faire ce genre de choses. Enfin, c'est vraiment une science très récente, hein, Hervé Blottière.
Tout à fait. Alors, il y a 15 ans, on travaillait déjà un petit peu là-dessus. Enfin, on travaillait même beaucoup là-dessus, mais avec des techniques qui ne nous permettaient pas d'être aussi performants que l'on le fait maintenant.
Ouais.
Et les progrès technologiques, en fait, notamment bioinformatique, séquençage, etc., nous ont permis d'avoir bien plus d'informations et d'être beaucoup plus précis et de regarder le microbiote avec le bon microscope.
Est-ce qu'à terme, Karine Clément, on pourrait imaginer une carte d'identité de notre microbiote, alors intestinal principalement, pour pouvoir justement, très longtemps à l'avance, comme on fait un peu avec l'ADN, en tout cas les promesses de l'ADN, pouvoir identifier les maladies qu'on serait susceptible de développer?
Alors, techniquement, en recherche, aujourd'hui, par ces techniques aussi de séquençage, puisque c'est comme ça qu'on accède effectivement... En théorie, oui, on a aujourd'hui des données sur l'abondance des gènes. C'est-à-dire, est-ce qu'on a beaucoup de gènes de tel groupe qui donnent un reflet de l'équipement bactérien? La vraie question qui se pose, et c'était vrai aussi pour le génome humain, c'est en fait le retour à la personne. C'est-à-dire, à partir de ces profils, peut-on réellement prédire l'évolution? C'est d'ailleurs la question qu'on aborde dans Métacardis. On peut regarder des associations avec un certain nombre de traits biologiques. On peut regarder des relations avec notre environnement, ce qu'on mange, ce qu'on dépense. Mais la question de le retour à la personne, de la prédiction, c'est vraiment un enjeu, d'ailleurs, qu'on aborde à ICANN, l'Institut cardiométabolisme et nutrition.
C'est quoi, c'est un enjeu éthique?
Il n'est pas qu'éthique, il est d'abord scientifique. C'est-à-dire, est-ce que réellement, on peut, en fonction de ces données, mieux caractériser les personnes et donner cette information pour prédire de façon fiable?
C'est ça.
Aujourd'hui, nous n'avons pas la réponse.
Avec toutes les précautions à prendre dans ces cas-là.
Voilà. Et l'enjeu éthique que vous signalez est absolument essentiel. Mmh. D'ailleurs, il y a des collègues avec qui nous travaillent sur cette question éthique qui doit être abordée. Et de façon plus vaste, c'est un problème aujourd'hui, enfin c'est une question aujourd'hui de ce qu'on appelle la médecine de précision, ou personnalisée si vous voulez, dans lequel on a accès à beaucoup d'informations biologiques aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? La vraie question, en tant que médecin, moi, ce qui m'intéresse, et pour les patients, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour la personne et comment je peux, à partir de cette information, mieux la connaître et mieux la traiter.
Ouais. Hervé Blottière, il y a déjà des entreprises qui se proposent de nous établir cette sorte de carte d'identité.
Oui, tout à fait.
Pas en France.
Tout à fait. Alors, il y en a en Allemagne, qui sont donc des entreprises privées. Alors, l'idée, c'est vous envoyez votre prélèvement, vous envoyez le montant nécessaire pour payer l'étude, et on vous renvoie en échange une carte
fiche,
de votre microbiote. Et l'idée était aussi de vous donner la situation de votre microbiote par rapport à l'ensemble de la population qui a été...
Sauf qu'apparemment, c'est pas très fiable, parce que quelqu'un s'est amusé à envoyer le même prélèvement à plusieurs laboratoires et les réponses n'étaient pas du tout les mêmes.
Alors ça, c'était aux États-Unis, effectivement. Ça a fait un grand bruit justement contre ces sociétés qui essayent de, finalement, quelque part, de se faire de l'argent.
Ouais.
Ce qui n'est pas le cas pour les Allemands. Et en fait, effectivement, ils ont envoyé le même prélèvement à trois endroits différents avec des résultats très différents.
Karine Clément, on le disait tout à l'heure, c'est à la naissance que nous sommes dotés de ce microbiote. C'est-à-dire qu'une fois qu'on prend l'air pour la première fois, qu'on sort du ventre de notre mère, paf, ça y est, on a notre lot de bactéries.
Alors oui, c'est ce qu'on a appris de nos collègues microbiologistes. C'est aussi que lors de la naissance, et selon d'ailleurs le mode de naissance, ça peut être différent, on acquiert ce microbiote.
Ouais.
Mais comme la science évolue beaucoup, et très vite, il y a actuellement des travaux qui montrent que c'est peut-être plus compliqué que ça.
Donc dans le ventre de la maman, on aurait déjà quand même développé
avoir
le microbiote.
Certaines bactéries déjà en tant que fœtus ou bébé dans le ventre de la mère. Vous voyez que ça va très très vite.
C'est ça, oui. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a quelques semaines encore...
On remet en cause tous les jours des dogmes.
C'est ça.
Et c'est tout l'intérêt de la science.
Isabelle nous dit, mon fils est né par césarienne, a reçu des antibiotiques à la naissance pour ces deux raisons. Ma pédiatre lui a directement prescrit des médicaments pour renforcer sa flore intestinale. Vos invités l'auraient-ils conseillé? Alors le médecin Karine Clément.
Aujourd'hui, on est encore une fois, on est à un stade fantastique parce qu'il y a des enjeux très forts, mais encore de recherche. La question aujourd'hui de ces médicaments, alors je ne sais pas ce qui a été donné à cet enfant, mais ce qu'on peut appeler des probiotiques, c'est-à-dire de donner des bactéries ou alors nourrir les bactéries par des prébiotiques, effectivement se pose. Aujourd'hui, c'est très complexe parce qu'en fait, dans les modèles d'animaux, effectivement, on arrive à guérir des maladies en donnant des prébiotiques et des probiotiques. Chez l'homme, aujourd'hui, ce n'est pas complètement clair. Ce qui existe aujourd'hui sur le marché, les effets vraiment biologiques ne sont pas encore complètement démontrés. Donc ça fait partie des choses qu'on doit mieux comprendre. Mais certainement que les premières années de vie, le mode de naissance, le mode d'allaitement, l'évolution, la répétition des antibiotiques, il est possible qu'effectivement ça puisse jouer un rôle sur le développement, non pas le développement de l'enfant, mais peut-être le développement de l'immunité effectivement toute la question des maladies futures. Oui. Mais la question aujourd'hui est vraiment posée. Hein.
C'est vrai, on en a parlé d'ailleurs récemment avec vous à l'occasion d'une étude qui a été publiée justement sur la façon dont naissent les enfants et la différence de microbiote selon qu'on est né par césarienne ou pas.
Oui, absolument. Donc en fait, lorsqu'on est par césarienne, on est en contact non pas avec ce qu'on appelle la filière maternelle, c'est-à-dire toutes les bactéries qu'on a dans le vagin, dans le périnée, etc., mais on est en contact avec la peau. Donc en fait, on acquiert des germes de la peau. Mmh. Et la question qui se pose, c'est que finalement, quelles sont les conséquences à long terme pour ces enfants? Et c'est un vrai enjeu, hein, quand on discute avec les gynéco-obstétriciens. Aujourd'hui, par exemple, en Europe, il y a des pays comme l'Italie où c'est presque 50% des naissances par voie de césarienne, pour des raisons non pas médicales, mais également de confort. Mmh. Et donc ça pose vraiment des questions, et notamment comment corriger cela.
Allez, on se retrouve dans un instant, on va parler de l'obésité justement, en partenariat avec Santé Magazine, et puis également les troubles de l'humeur, tout ça lié donc à notre flore intestinale, et vos messages nombreux qui arrivent sur franceinter.fr.
Des absolus amateurs. des absolus amateurs. Des absolus amateurs.
Absolu amateur avec l'Udéal et Thierry Dupin pour la programmation de La Tête au Carré. Mes invités, Karine Clément, Hervé Blottière et Aline Perraudin pour Santé Magazine, à l'occasion de ce dossier sur le microbiote, une flore qui nous veut du bien. Et si tout se passait dans l'intestin, Aline Perraudin, on le disait tout à l'heure, hein, c'est ce que vous mettez à la une de Santé Magazine. On va parler justement de l'obésité que vous traitez abondamment dans les pages de ce dossier. Est-ce qu'on connaît bien, Hervé Blottière, les différents rôles du microbiote intestinal aujourd'hui?
Alors, comme je le disais au départ, l'un des premiers rôles qui est le plus connu depuis très très longtemps, c'est sa participation pour nous aider à digérer des aliments que, que notre organisme ne sait pas digérer, donc via les fermentations, par exemple les fibres alimentaires. Et ça contribue donc à une partie de l'énergie pour notre organisme, en particulier pour l'intestin. Chez nous, chez l'homme, c'est à peu près 8 à 10% de notre énergie qui vient du travail de nos bactéries. Chez le cheval, 50% de son énergie en vient. Donc ça, c'est la première grande fonction. Après, il y a un nombre important de fonctions, mais l'une qui vient tout de suite à l'esprit derrière, c'est la maturation du système immunitaire. On voit très bien que le microbiote est essentiel pour une bonne maturation du système immunitaire. Et ce qui est à noter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur la naissance, pendant les 3 premières années de la vie, c'est le moment où le microbiote va se former, va coloniser et va maturer. Et en parallèle, on a le système immunitaire qui va maturer de la même façon. Mmh. Et on considère à l'heure actuelle que cette période, là, les 2-3 premières années de la vie, sont essentielles. Et si cette maturation se fait pas bien des deux côtés, eh bien, on a une prévalence de pathologies.
C'est ça. Donc c'est asthme, le capital, notre capital en tout cas qui se construit pendant ces 3 premiers mois.
Effectivement, et après on considère qu'il est relativement stable.
Et d'autres rôles alors? Il y en a un troisième?
Alors il y en a d'autres. Il y a un rôle vis-à-vis de l'obésité, du métabolisme au sens large et des autres organes métaboliques. Il y a un rôle, vous en avez évoqué l'idée autour de la dépression et donc un rôle de signalisation vers le cerveau. On sait qu'il participe au contrôle de la satiété, par exemple. Ouais. On a beaucoup de travaux à l'heure actuelle sur tout ce qui est humeur, dépression, voire même autisme.
Ouais. Voilà, donc c'est un champ vraiment très important
dévoile. Et en fait, on a l'impression que plus on avance ces dernières années, on se rend compte que il semble qu'il n'y ait pas un organe pour lequel le microbiote n'est pas un rôle, en tout cas, même au niveau des os, au niveau du foie, au niveau du poumon, au niveau de la peau, etc. Donc réellement.
Vous avez évoqué très rapidement l'autisme. Il y a une question sur Facebook de Mille Gilles. Certains évoquent des liens justement entre le microbiote et l'autisme. Qu'en pensent vos invités?
Alors moi, je vais dire que c'est une excellente piste de recherche. On va pas être affirmé du tout quoi que ce soit. Il y a des travaux chez la souris qui ont l'air de montrer effectivement dans des syndromes de type autistique que le microbiote pourrait participer, c'est clair. Je pense que c'est vraiment une piste de recherche, il faut pas aller trop vite. On espère, je vous le disais hors antenne, que l'Agence nationale pour la recherche va prochainement nous financer une étude justement sur autisme et microbiote. Mais je le répète, donnez-nous du temps avant de tirer des conclusions.
Et puis toujours le message important, Karine Clément, attention au modèle animal, parce que la souris et l'homme, c'est pas tout à fait la même chose, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, c'est ça, je crois qu'aujourd'hui c'est un enjeu absolument essentiel. D'ailleurs, les chercheurs se posent beaucoup de questions sur le modèle optimal. Aujourd'hui, effectivement, finalement, un des modèles qui a été aussi très précurseur, y compris dans le domaine des maladies métaboliques, de l'obésité, c'est des souris qui naissent sans bactéries, sans germes. Et donc ces souris, elles sont utilisées. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on peut prendre du microbiote et le transférer chez la souris et regarder son effet. Et effectivement, vous signaliez l'autisme, mais dans d'autres maladies, le diabète, certaines pathologies cardiovasculaires, on transfère du microbiote et on voit que l'animal qui a reçu le microbiote, même d'une personne malade, pas seulement d'une souris, d'une personne malade, va manifester des signes de maladie, alors que celle qui a reçu le microbiote d'un animal ou même d'une personne non malade ne va pas exprimer.
Mais une souris peut vivre sans bactéries, c'est possible ça ?
Alors, des souris, bien sûr, peuvent naître, c'est ce qu'on appelle dans le jargon scientifique les souris axéniques, peuvent naître, bien sûr, sans bactéries. Mais elles sont particulières,
ces souris.
En milieu stérile. On les élève en bulles, effectivement.
Voilà. Merci de la précision, parce que j'avais du mal à comprendre comment...
Ce sont des souris bulles.
C'est ça.
Des
voilà.
Souris bulles, voilà.
Et à l'INRA, on a un énorme élevage d'animaux...
Sous bulles,
exactement. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces animaux vivent plus longtemps que les animaux avec microbiote. Ça, c'est l'une des choses assez amusantes. Ça. On nous dit, mais c'est essentiel à la vie. Ben non.
Ouais.
Mais on vit pas en bulle.
Enfin, et pour le grand public, c'est quand on parle de ces études sur la souris, effectivement, il faudrait pas extrapoler tout de suite à l'humain et dire ça y est, on va prendre par exemple un yaourt antidépresseur, on va y avoir une ordonnance alimentaire qui va nous permettre de modifier notre flore et de prévenir des maladies. On n'en est pas là.
Ben justement, prenons l'exemple de la souris et de l'obésité. C'était l'objet d'un documentaire Microbiote bactérie, la bactérie qui fait maigrir.
Cette souris est le résultat d'un régime alimentaire trop riche en graisse. Elle présente tous les signes de l'obésité. Cette autre pèse moitié moins.
24,3.
Pourtant, les deux souris ont eu accès à la même nourriture. La différence tient au fait que chez la seconde, on a administré un probiotique, une souche bactérienne vivante qui, une fois dans l'intestin, est parvenue à corriger le déséquilibre de son microbiote.
Ce qu'il est important de noter, c'est que l'administration d'une seule bactérie, en fait, peut avoir un impact sur toute l'écologie du système lui-même.
Il ne s'agit encore que d'une piste. Un être humain, ça ne se manipule pas comme une souris de laboratoire.
Est-ce que c'est envisageable d'avoir la bactérie qui fait maigrir ? C'est la question à 100 000 dollars, comme diraient certains de mes collègues. Donc, est-ce qu'il existe une bactérie capable de faire maigrir ? Expérimentalement, je vous dirais oui. Est-ce qu'elle va faire maigrir un sujet pour le rendre mince? C'est très difficile de pouvoir vous dire que ça va exister. Par contre, qu'une seule bactérie soit capable de diminuer le gain de poids corporel et en parallèle améliorer par exemple le diabète, là j'y crois.
Karine Clément, alors cette piste sur l'obésité, qu'est-ce qu'on observe chez les personnes en surpoids ou chez les souris en surpoids en l'occurrence?
Alors, effectivement, les premières observations ont montré qu'il y avait des modifications du microbiote de différentes natures. Une première observation, c'est le fait que la richesse, quand on regarde la richesse du microbiote, eh bien, il y a des personnes obèses qui ont une perte de richesse.
Donc une diversité bactérienne,
oui,
on pourrait dire
des
choses comme ça.
Elles sont moins riches en bactéries, et ça on l'accède par les gènes des bactéries. Mm-hmm. Donc une pauvreté du microbiote. Et puis, il ne s'agit pas seulement que de la pauvreté du microbiote, mais également, ou de l'appauvrissement, si vous voulez, mais également des changements dans les groupes, des grandes balances qui sont modifiées dans certains groupes bactériens. Donc, ce qui est signalé dans ce commentaire par l'équipe de Patrice Cagny en Belgique, c'est le fait qu'effectivement, certaines personnes qui ont de l'obésité, du diabète, par exemple, vont avoir moins de certains types de bactéries.
Oui.
Et donc, il mentionne une bactérie au nom barbare, qui s'appelle Ackermansia muciniphila, effectivement, dont on a montré que des personnes, pas seulement la souris, les personnes obèses et diabétiques avaient un appauvrissement, mais pas tout le monde. Un appauvrissement, c'est un type de bactérie.
Quand vous dites pas tout le monde, c'est pas toutes les personnes obèses?
Pas toutes les personnes. Et c'est là on touche du doigt cette complexité en fait de ces maladies. Ouais. C'est pas seule cause.
Alors est-ce que ça veut dire, parce que j'ai tout de suite envie de vous poser la question, qu'il y a des aliments qui favorisent plus que d'autres cette diversité bactérienne dont vous parlez?
Alors Hervé citait l'importance des fibres. Effectivement, les fibres, ce qu'il peut y avoir dans certes les fruits, les légumes, etc., les végétaux, les fibres sont un élément extrêmement important de la diversité. Si vous voulez, c'est les aliments des bactéries. Mmh. C'est-à-dire, elles adorent ça.
Des bonnes bactéries.
Ce sont des bactéries qu'on appelle commensales, c'est-à-dire vraiment de notre flore intestinale.
Ouais.
Donc les fibres sont ce qu'on peut citer comme un des éléments importants.
Ouais. Sur Twitter, il y a Savat qui nous dit, est-ce que l'alcool modifie le microbiote? Et si oui, de quelle façon?
Eh bien, oui, on a des études à l'INRA sur le microbiote et effectivement, l'alcool modifie le microbiote et c'est pas simplement dans les modèles expérimentaux chez la souris, ouais, mais aussi également chez l'homme.
Et là aussi, on voit une perte de diversité bactérienne ou pas?
On a une perte de richesse et de donc une dysbiose clairement. Il y a vraiment un lien entre les pathologies hépatiques et pas simplement la cirrhose et cette dysbiose du microbiote.
Alors à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait éviter comme aliment? Je pense au sucre par exemple. Est-ce que c'est bon ou pas pour la diversité bactérienne, pour notre microbiote?
Alors tout dépend ce que l'on appelle sucre. Si c'est
Le sucre industriel, hein,
voilà.
Évidemment.
Alors si c'est le saccharose, a priori notre microbiote il va l'ignorer majoritairement puisque nous on est capable, notre organisme est capable de digérer le sucre très très bien. D'accord. On a les enzymes pour ça. Et donc des sucres plus complexes et les fibres finalement sont des sucres plus complexes. Et bien là effectivement le microbiote va être capable de faire la digestion que nous on n'est pas capable de faire. Mais pour le sucre de table clairement. Aline, pas besoin du microbiote.
Aline Perraudin.
Est-ce qu'ils aiment les édulcorants moins, non, que le sucre ou est-ce qu'il y a des études sur les édulcorants?
Oui, en fait, justement, une des idées de ce édulcorant, c'est que notre organisme ne va pas le digérer et c'est notre microbiote qui va le fermenter. Et effectivement, à l'heure actuelle, il y a des études qui montrent un lien entre la consommation d'édulcorants et autres et une dysbiose du microbiote, voire plus.
Karine Clément, pour là compléter.
Encore, prudence. Prudence chez l'homme. Effectivement, on voit bien, et notamment on signalait les modèles animaux avec le transfert de microbiote. Donc oui, on voit des modifications par les édulcorants, mais dans les données publiées, les doses qui sont utilisées, notamment dans ces édulcorants, sont assez élevées en fait. Et beaucoup plus élevé que ce qui est recommandé. Et donc, il faut être extrêmement prudent.
Quelle est la piste thérapeutique la plus intéressante aujourd'hui, justement, pour lutter contre l'obésité via le microbiote? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme stratégie thérapeutique?
Alors, quand vous parlez de lutter contre l'obésité, ça dépend ce que vous voulez aborder. Si vous voulez aborder le poids, effectivement, c'est un élément. On sait que c'est une maladie complexe.
Ou les effets collatéraux,
et y a
comme
les effets,
des maladies
les
comme le diabète, par exemple.
Voilà. Et dans les complications, il y a des facteurs. On a cité l'immunité. Chez des personnes obèses, il y a des modifications de l'immunité, de l'inflammation également. Mm-hmm. Donc, vous voyez, ça dépend vraiment de ce qu'on vise. Et il faut... Ce à quoi je ne crois pas, ça je peux, c'est que agir uniquement sur le microbiote va résoudre les problèmes. Ça, c'est peu imaginable, puisqu'en fait, on parle ici de maladies vraiment compliquées dans lesquelles les patients ont des trajectoires. Il y a des modifications, des dialogues entre notre intestin, le cerveau, notre intestin, le tissu graisseux, notre intestin, le foie. Et qu'est-ce qui se passe au cours de l'obésité? C'est justement des modifications de ces dialogues qui sont perturbés. Et donc, effectivement, le microbiote, c'est une voie d'accès. Et quelque part, tant mieux, puisqu'en plus, c'est une voie d'accès, entre guillemets, relativement accessible, puisqu'on est en relation avec cet environnement. Mais il y a encore beaucoup de travaux pour dire, en tout cas chez l'homme, si on pourra un jour, par cette voie du microbiote, résoudre un certain nombre de problèmes chez les patients.
Donc, prudence. Hein, dans tous les messages qui sont délivrés autour de notre flore intestinale. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de l'humeur, justement, les maladies comme la dépression. Beaucoup de messages en ce sens sur le site de La Tête au Carré. Rebel Rebel, David Bowie.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Voilà, nous sommes le 9 mars, mais le numéro d'avril de Santé Magazine est déjà dans les kiosques. Il faut s'y habituer avec ce dossier sur l'intestin. Aline Perraudin-Vaux, représentée Santé Magazine. Et puis à vos côtés, le médecin Karine Clément et le biologiste Hervé Blottière. Hervé Blottière, le microbiote qu'on appelle aussi notre deuxième cerveau. Ça aussi, c'est bien rentré dans le langage.
C'est pas le microbiote qu'on appelle le deuxième cerveau, c'est notre intestin qu'on appelle le deuxième cerveau.
C'est vrai.
Parce qu'en fait, le pool de neurones présent dans le tube, dans l'intestin est... Ouais. Pas aussi important que le cerveau, mais pas loin. Donc, pour ça qu'on l'appelle le deuxième cerveau.
Alors, justement, ce lien entre le cerveau et notre humeur, et précisément l'intestin, il est clairement établi. Il y a aussi un fil conducteur qui nous emmène jusqu'à la tête.
Alors, il y a effectivement un nombre important d'expérimentations chez l'animal qui démontrent clairement qu'il y a un lien. Le comportement d'animaux peuvent être influencés par la présence ou l'absence du microbiote. Si c'est très bien documenté chez l'animal, il commence à y avoir de nombreuses démonstrations. On est un petit peu plus loin chez l'homme. Mmh. On n'est pas prêt encore, je pense, à pouvoir être aussi affirmatif.
Alors, c'est pour quand ça que... Annie, sur le site de l'émission, vous pose une question sur le lien entre le microbiote et la dépression, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre chez l'homme, évidemment, parce que la dépression de la souris nous intéresse un petit peu moins.
Voilà. Alors, il y a un certain nombre d'arguments pour dire qu'effectivement, il peut y avoir un lien et que le microbiote peut participer à la synthèse de certains de ces neurotransmetteurs.
Oui, c'est ça qui est fantastique. C'est qu'en fait, ce microbiote peut aussi fabriquer des hormones, qui sont des hormones qu'on trouve dans le cerveau et qui sont impliquées dans la dépression. Ouais. Ça, c'est très étonnant. C'est une découverte assez récente.
Aline Perraudin.
La sérotonine, est fabriquée à 80.
Le GABA,
il y en a d'autres.
Ouais. Viron demande, la maladie de Parkinson, maladie neurodégénérative, a-t-elle un rapport avec un déséquilibre de la flore intestinale? Est-ce qu'on peut aller jusque-là, Karine Clément?
Alors oui, c'est toute la question des maladies neurodégénératives. Alors pour la maladie de Parkinson, je suis sûre que nos collègues neurologistes ont commencé à réaliser des collections et on en saura probablement un peu plus. Une des choses importantes, c'est que c'est aussi les médicaments. Il faut être prudent, parce que dans ces maladies-là, en fait, les personnes reçoivent aussi des médicaments pour éviter, par exemple, le tremblement. Et aujourd'hui, c'est un des grands sujets. Ouais. C'est le lien aussi avec la prise de médicaments qui peut également...
Et son incidence.
Voilà, qui peut non seulement influencer notre microbiote en tant que tel, mais l'équipement qu'on a, notre microbiote, peut-être qu'on répond aussi différemment aux médicaments. Et c'est ce qu'on observe en clinique. C'est qu'une personne, même maladie, même traitement, effet différent. Se pourrait-il que justement notre équipement microbien pourrait jouer un rôle? On voyait bien la complexité.
Alors je voulais juste dire par rapport à la maladie de Parkinson, c'est qu'il y a une étude scandinavienne,
c'est joli, mais bon.
C'est un anglicisme. Donc, qui a démontré en fait qu'il existe un lien, en tout cas avec l'intestin, puisque chez les sujets qui sont vagotomisés, donc pour lequel le nerf vague qui relie donc l'intestin au cerveau a été coupé et des deux côtés, eh bien, il y a un impact sur la maladie de Parkinson et sur l'incidence de la maladie de Parkinson. Et il faut, dans cette étude, ils ont montré qu'il faut les deux nerfs vagues qui soient coupés.
Alors, parmi les pistes thérapeutiques, évoquons la greffe fécale. Alors, c'est assez particulier, en tout cas, l'extrait de ce documentaire, le microbiote, ces bactéries qui nous gouvernent.
Pour ceux qui auraient des doutes, il s'agit bien là d'excréments, ceux d'un homme en parfaite santé.
Le côté positif, c'est cette hotte de ventilation sous laquelle je travaille. Donc, au moins, vous n'avez pas les odeurs. Mais au début, ça vous dérangeait? Bon, c'est toujours étrange de pratiquer ce genre de procédure avec les excréments d'un autre homme, bien sûr. Mais ce que j'entrevois différemment, c'est avant tout le microbiote intestinal qu'il y a dedans et les possibilités que cela ouvre à différents niveaux.
Donc, ce n'est pas seulement du caca pour vous?
Non, plus maintenant.
Effectivement. Les excréments sont une matière vivante. Les deux tiers de leur poids sont composés de bactéries, entraînées hors du corps par la digestion. Après filtration, le résultat est donc un reflet fidèle du microbiote du donneur. Un bon 2 ml de solution que l'on va ensuite transfuser dans l'intestin d'une autre personne.
Alors, la piste de la greffe fécale. Réaction de nos invités Karine Clément et Hervé Blottière, qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce qu'on entendait. Alors, Karine Clément, d'abord.
Alors, aujourd'hui, la greffe fécale a, on peut le dire, démontré son intérêt et son efficacité dans des maladies graves de l'intestin, des maladies liées à un germe bactérien qui s'appelle Clostridium difficile, qui est lié en fait à la répétition d'antibiotiques chez des patients qui ont des maladies inflammatoires de l'intestin. C'est vraiment des gens qui ne vont pas bien. Et ce qui a été montré par une étude célèbre, c'est qu'effectivement, des personnes ont reçu un traitement conventionnel pour tuer la bactérie la greffe fécale de personnes saines. Et l'essai a dû être arrêté puisque du fait de l'efficacité
de
la greffe. C'est très
en
rare.
En clinique, c'est très rare.
C'est extrêmement rare. Ouais. Donc ça, là-dessus, je pense, Hervé, je pense que tu seras...
Tout à fait d'accord. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on va aller plus loin et que la greffe fécale va, dans ce cas-là, en tout cas, de Clostridium difficile, les risques de ne durer pas très longtemps, puisqu'il y a déjà des sociétés qui ont déterminé un consortium bactérien qu'on peut arriver à cultiver et à administrer, et qui a été démontré par une étude publiée il y a quelques jours comme étant aussi efficace que la transplantation fécale.
Alors pourquoi vous réagissiez vite, parce qu'il nous reste moins d'une minute.
Parce qu'en fait, quand on fait la procédure qui a été décrite, on expose la grande majorité des bactéries à l'oxygène. Or, ces bactéries sont anaérobies strictes et donc meurent en présence d'oxygène.
Donc ça biaise.
Ça ne reproduit pas du tout la composition du microbiote, mais... C'est quand même efficace.
Ah oui, donc il y a quand même des pistes de recherche intéressantes.
Ça veut dire qu'on transfère un écosystème. Elle meurt, mais elle délivre, avant de nourrir, des choses qui peut-être font quelque chose.
Ouais. Ben vous avez du travail encore, hein.
Oui,
les cliniciens comme les chercheurs. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes associés
ensemble.
Voilà, exactement, pour essayer d'en savoir plus sur cette flore intestinale, sur ce microbiote qui n'en finit pas de livrer ses secrets. Et puis, pour en savoir plus sur l'humeur, le poids, la santé, Aline Perraudin, on peut lire donc le nouveau numéro de Santé Magazine qui est dans les kiosques en partenariat ce mois-ci avec La Tête au Carré. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus. Merci aux auditeurs pour les très nombreuses questions.